Oui, je suis contente d'être avec vous. Toujours un privilège d'apporter la parole. Est-ce qu'il y a des fans de sport dans la salle en levant la main? Des fans de toutes sortes de sports confondus, foot, football, golf, soccer, etc. Hockey aussi, hein, au Québec, il y a plusieurs fans de hockey. Si vous êtes fan de sport, vous connaissez le concept probablement des temples de la renommée, les Hall of Fame. On a une image ici. C'est vraiment des expositions qui consistent à honorer ceux qui ont vraiment joué un rôle particulier dans leur domaine respectif, comme dans le sport. Certains peut-être aiment plutôt les célébrités ou acteurs, actrices, chanteurs, etc. Donc, vous reconnaissez peut-être le Walk of Fame à Los Angeles, le grand boulevard où il y a les étoiles avec chaque personne qui ont chaque star, chaque célébrité qui sont là. Est-ce que vous saviez par contre qu'il existe aussi un temple de la renommée dans la Bible? Oh, peut-être certains appellent le passage qu'on va étudier ensemble ce matin le temple de la renommée de la foi. Et ça se trouve au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ce chapitre, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est qu'il énumère des dizaines de personnes qui ont placer leur foi en Dieu tout au long de l'histoire biblique. Et ces exemples sont vraiment cités pour encourager les chrétiens à vivre par la foi. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, ce matin, Vivre par la foi. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui, premièrement, qu'est-ce que c'est la foi? Hein, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est aussi de vivre par la foi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et surtout, OK, c'est bien beau de décrire ces choses-là, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit par la foi au quotidien? Ma prière pour nous, c'est que vraiment notre foi puisse augmenter ce matin, puisse être vivifiée, rafraîchie par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, qu'on ne reparte pas de la même façon qu'on est entré ici dans ce lieu. Pour vous mettre un peu dans le contexte, l'auteur, c'est un auteur anonyme, c'est le seul, c'est ça, dans les lettres, c'est la seule qui n'a pas d'auteur qui se nomme au début. Donc, de la lettre aux Hébreux, et il va s'adresser à une communauté chrétienne qui est confrontée à différents défis. Est-ce qu'il y en a qui vivent des défis dans la vie? Ouais, bon, ça va s'adresser à nous aussi. La lettre est écrite pour encourager, exhorter les croyants à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ, malgré les persécutions qu'il y avait à l'époque, les tentations aussi auxquelles ils sont confrontés. Et peut-être aussi, on remarque peut-être un découragement après la déception de ne pas voir revenir Jésus. Les premiers chrétiens pensaient que Jésus allait revenir quelques années après son départ, parce que Jésus a quand même dit, je reviens bientôt. Okay. Un peu plus de 2000 ans, plus de 2000 ans en fait, bon, bientôt c'est relatif, on s'entend, donc peut-être qu'il y avait besoin d'encouragement à ce niveau-là aussi. On lit donc, on va commencer avant un petit peu qui précède Hébreux 11, on va lire le chapitre 10, 35 à 39. Donc on lit ceci ensemble avant de passer à la suite. N'abandonnez donc pas votre assurance, c'est ce qu'on croit aussi aujourd'hui, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Moi aussi, j'ai besoin de ça ce matin. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et c'est là que peut-être l'annonce de Jésus qui arrive bientôt. Et le juste vivra par la foi. Mais il s'en revient. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Est-ce que vous faites partie aussi d'eux? Oui, de ceux-là. Amen. L'auteur les encourage à ne pas abandonner, à persévérer, à vivre par la foi. Vivre par la foi, évidemment, ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, bien évidemment. Mais vivre par la foi, c'est aussi vivre par la foi au quotidien. Et c'est ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, que la foi, en fait, c'est un mode de vie, c'est la mode de vie du chrétien. L'auteur aux Hébreux nous aide à comprendre vraiment comment vivre par la foi en nous donnant tous ces exemples que nous allons lire ensemble. Mais juste avant d'aller lire ce passage, prions, prions ensemble, courbons la tête. Saint-Esprit, je te prie de venir parler à nos cœurs, parler à nos esprits. On veut vraiment avoir une ouverture de cœur sur ton enseignement. Et Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, nous soyons vivifiés dans notre foi. Seigneur, viens augmenter notre foi. Mes paroles, ce ne sont que des paroles, mais c'est vraiment par ton esprit que tu peux agir dans les cœurs, Seigneur. Alors, fais ton œuvre ce matin en nous. Amen. Alors, lisons Hébreux 11 et j'ai choisi de ne pas le présenter à l'écran aujourd'hui parce que ça va être un quand même long texte, on va presque lire au complet le chapitre. Et je ne sais pas si vous saviez, mais dans le temps de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, ils lisaient la plupart des lettres, étaient lues devant les assemblées. Et la lettre aux Hébreux est possiblement même un discours, presque la rédaction d'un discours, on le sent un peu. Donc, j'ai choisi de vous le lire et de ne pas l'afficher à l'écran. Donc, on peut vraiment écouter ce matin la parole de Dieu. Et je vous dis, ça va prendre 5 minutes. OK? On est-tu capable de faire ça, nous, gens modernes, rapido? Alors, 5 minutes environ, on va lire la parole de Dieu ensemble, puis après, on va regarder ensemble. Donc, je vais essayer de lire lentement. On prend son souffle, c'est parti. Hébreux 11, si vous voulez suivre avec moi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On va au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun de ses fils, chacun des fils de Joseph, et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait, c'est vrai, le temps nous manquerait. En effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Amen! C'est par la foi, c'est par la foi. Amen! Est-ce que vous faites partie aussi de ceux qui, de ces témoins qui font partie de ça ici, de cette communauté de foi? Amen! Prendre une gorgée d'eau, quand même un bon texte. Alors, regardons ensemble notre première question. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Vous êtes toujours là? Oui? Le texte nous dit au verset 1, le chapitre commence comme ça. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous à quel point il y a une perspective future et une perspective aussi invisible dans la foi. Si on voyait les choses, mais ce ne serait pas de la foi, ce serait juste des faits devant nous. Au verset 6 aussi, on lit « Ceci, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi, c'est pas seulement de croire en Dieu, mais c'est croire aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Plusieurs peuvent croire en un Dieu, hein, même un Dieu très loin ou lointain, mais ça ne fait pas des chrétiens. Il faut faire confiance à Dieu. C'est ce qui fait que notre foi, c'est ça, c'est la confiance aussi, pas seulement croire. Jacques 2, 19, elle dit ceci, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Aussi, des chrétiens peuvent se retrouver avec une vie misérable, une vie spirituelle vraiment plate, parce que oui, ils croient en Dieu, mais ils ont oublié sa bonté, sa fidélité, ils ont oublié qui il était vraiment. Croire en Dieu, c'est une chose, mais croire qu'il est bon, croire qu'il t'aime, qu'il veut ton bien, qu'il récompense ceux qui le cherchent, c'en est une autre. Et je veux vous encourager ce matin à croire que Dieu est bon, à croire en l'amour de Dieu. On lit au verset 11, « C'est par la foi que Sarah, elle a elle-même été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu était digne de confiance. » On voit ici que la foi, c'est pas seulement croire en Dieu, mais croire en sa fidélité, croire en sa bonté, croire en son amour. Je veux vraiment t'inviter ce matin à t'introspecter pour voir si tu crois encore en la bonté de Dieu. Je prie vraiment que si ce n'est pas le cas, tu puisses repartir d'ici en étant convaincu que Dieu t'aime, qu'il est bon, qu'il veut ton bien en fait, qu'il est parfait. Aussi, le verset nous dit que c'est Dieu que nous devons chercher, hein, et non la récompense. Il va récompenser ceux qui le cherchent. Que la foi, ce n'est pas en fait de chercher la récompense directement, mais Dieu d'abord. Hein? La foi, c'est chercher Dieu d'abord et avant tout, sachant que si c'est notre désir vraiment sincère de s'approcher de lui, il va nous récompenser. Il va nous récompenser. Et des fois, pas toujours de la façon qu'on voudrait ou qu'on pourrait s'imaginer, mais c'est justement ça, la foi en fait, c'est croire que Dieu est bon, peu importe ce qui arrive. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Maintenant, qu'est-ce que vivre par la foi? Qu'est-ce que c'est de vivre par la foi? Nous allons regarder aux différents exemples de Hébreux 11 pour voir en quoi consiste le fait de vivre par la foi. Mais si on regarde, si on se rappelle de ce passage-là, la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit à quel point il y a vraiment une dimension qui est future et une dimension qui est invisible à la fois. Vivre par la foi, c'est vivre selon une perspective future et invisible. Vivre par la foi, c'est vivre selon une perspective future et invisible. Malgré ce qu'on ne voit pas, malgré ce qu'on ne ressent pas, ça pour nous, c'est des fois difficile. On doit croire et faire confiance à Dieu. Et ces deux choses sont indissociables, hein, futur et invisible, parce que tout ce qui est futur, on ne le voit pas. Hein? Par contre, tout ce qui est invisible n'est pas nécessairement futur. On saigne un peu du nez en ce moment, comme les carrés, c'est un rectangle, mais les rectangles, ce ne sont pas tous les carrés, bref. Dans le texte, nous avons des exemples vraiment de ces deux éléments-là, autant futurs que invisibles, et on va les regarder ensemble. Regardons premièrement à vivre par la foi selon la perspective future. On va regarder au verset 8, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Ouf, ça, c'est-tu quelque chose que vous aimez, des beaux plans comme ça, là? Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais voilà, fais-moi confiance. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis. Il y avait une promesse qui était là, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On voit vraiment la perspective future, la perspective d'une promesse que Dieu fait. Vivre par la foi, c'est comme Abraham, faire confiance à Dieu par rapport à ses promesses, savoir que ce que Dieu dit, il va le faire. Croire qu'il est digne de confiance, croire qu'il tient parole, qu'il dit la vérité. Qu'il dit la vérité. Et les promesses et les paroles de Dieu, elles se retrouvent où? Elles se retrouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Vivre par la foi, c'est faire confiance que c'est la vérité, que la Bible est la vérité et la mettre en pratique, évidemment. Et regardez l'ultime preuve de foi d'Abraham à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieu avait promis que par Isaac, il y aurait une descendance, donc un grand peuple innombrable. Et finalement, un jour, Dieu lui dit, « Ah, ben tu vas sacrifier ton fils. Donc, Abraham va sacrifier ton fils. » Et ça semble étrange parce que c'était de lui que devait venir la promesse. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Ben, il est allé jusqu'au bout, prêt à sacrifier son fils jusqu'à ce que Dieu, bien entendu, dise, « Ben non, fais pas ça, ne sacrifie pas ton fils. » Le seul qui voulait sacrifier son fils, c'est Dieu lui-même, mais il n'a jamais permis aux humains de sacrifier des enfants. Donc, voici un peu pour l'histoire. Il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Abraham pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Waouh! Quelle foi! La foi à son plus haut niveau. D'ailleurs, Abraham est appelé le père de la foi. Il croyait en la promesse de Dieu et le sacrifice de son fils que Dieu lui demandait, ça faisait vraiment pas de sens. Ça ne concordait pas avec la promesse. Dieu, tu me dis d'avoir une descendance avec Isaac et après tu me demandes de le sacrifier. Imaginez l'épreuve de la foi. Mais il croyait non seulement en la promesse, mais dans la puissance de Dieu pour ressusciter son fils. Abraham a cru au plus grand miracle possible. Et nous, ça serait plus facile, en guillemets, de le croire parce que nous savons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais lui, même avant la résurrection de Christ, il avait cette foi incroyable en Dieu qu'il est capable de ressusciter des morts. Quel exemple de foi! Comme Abraham, parfois, Dieu peut nous demander des choses qui ne semblent pas faire de sens. Mais vivre par la foi, c'est faire confiance à Dieu, faire confiance en ses promesses, faire confiance en la puissance et la perfection de ses plans. Ça, c'est pas facile parce qu'on ne le voit pas et parce que c'est quelque chose de futur qui prend place quand on commence à marcher dans ses plans. Parfois, Dieu place au verset 17, ça dit, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, Dieu place des situations devant nous pour éprouver notre foi. pour faire grandir notre foi, pour apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui. L'épreuve a l'opportunité de nous éloigner de Dieu dans nos réactions ou de nous approcher de lui, de dépendre de lui encore plus. C'est par la foi que nous pouvons même voir nos épreuves comme un sujet de joie. Quelle absurdité, mais c'est quand même vrai parce que nous savons que ça fortifie notre foi et que nous nous rapprochons de Dieu. Ça n'a pas l'air de faire du sens, mais ça en fait dans le monde de la foi avec Jésus. C'est par la foi aussi qu'Isaac a béni Jacob et Isaü en vue de l'avenir. Ça, c'est au verset 20. Vivre par la foi, c'est aussi investir dans des choses pour l'avenir. C'est continuer d'éduquer tes enfants dans les voies de Dieu, même si tu n'as pas l'impression de voir des résultats. C'est continuer de prêcher, même si tu n'as pas l'impression de voir des résultats. C'est continuer de persévérer dans ton témoignage, dans la pureté de ton témoignage au travail, même s'il y a de l'opposition. C'est continuer de démontrer de la gentillesse, de la bienveillance envers ta famille, mais même si elle ne te le rend pas. C'est marcher, vivre vraiment dans une perspective en vue de l'avenir. Au verset 25, on lit « Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » La jouissance du péché, elle est momentanée. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Vivre par la foi, c'est obéir, refuser le péché momentanément, pour fixer notre corps sur la récompense à venir. Ne pas céder à la tentation, c'est véritablement un acte de foi. Et je veux dire bravo à tous ceux qui résistent à la tentation par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est un acte de foi à tous les jours. Parce que nous croyons que le résultat de faire la volonté de Dieu et de lui obéir est meilleur que le péché momentané. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Amen. Lâchons pas. Vivons par la foi. Vous êtes là? Vivre par la foi, c'est vraiment dans une perspective d'avenir. Et c'est aussi dans une perspective qui est invisible. Vivre par la foi, c'est de faire confiance à Dieu même si tu ne le vois pas. Est-ce qu'il y en a qui voient Dieu souvent? Visiblement, non, je ne penserais pas. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde. C'est faire confiance à Dieu, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le ressentons pas aussi. On est des gens très sensibles, des humains très sensibles. C'est normal, ça fait partie de la vie humaine, mais c'est dur de croire des choses qu'on ne ressent pas, c'est normal. Voici quelques exemples de choses qu'on ne voit pas et qui nécessitent la foi à partir de notre texte dans Hébreux. Verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible, ce que nous voyons ici en ce moment, n'a pas été fait à partir de choses visibles, mais des choses invisibles. » C'est par la foi donc que nous savons qu'il y a un créateur derrière la création. Ici, il y en a beaucoup qui sont capables de dire « Wow, quelle belle création !» Ils vont dire « L'univers a tellement bien fait les choses » ou « Mère nature !» Mais nous savons que Dieu est derrière la création et on peut en jouir à cause de ça. Derrière les choses visibles se cache aussi un monde spirituel. Nous sommes conscients du monde spirituel qui existe. Au verset 7, on lit « C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore. » Il y a un aspect prophétique à tout ça, un aspect eschatologique, une espérance à venir de choses qu'on ne voit pas mais qui sont promises. Rempli d'une crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte, ça c'est au verset 27, l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est ça la foi, en fait. On ne verra pas Dieu, je ne penserais pas à la moindre de vraiment une vision très particulière voilà, mais que nous puissions vivre comme si nous voyions ce qui est invisible. C'est ça, la foi au quotidien. Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 7, l'apôtre Paul dit que nous vivons, non pas par la vue, mais par la foi. que nous vivons dans la perspective d'un royaume qui n'est pas encore visible. On va lire ensemble, on va lire ensemble le texte dans Corinthiens. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, donc ce qui est visible, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vivre par la foi, c'est porter notre regard sur l'espérance à venir, sur la cité que Dieu prépare pour son peuple, pour le royaume de Dieu, qui sera rendue visible un jour lorsque Jésus reviendra sur terre. Vivre selon les principes d'un royaume qu'on ne voit pas encore, mais on doit commencer à vivre selon les principes du royaume, en s'aimant les uns les autres, en servant Dieu, en poursuivant notre témoignage, etc., etc. Vivre selon les principes d'un royaume qu'on ne voit pas encore. Et je veux conclure ce dernier point. Qu'est-ce que c'est de vivre par la foi avec ce passage en hébreu à partir du verset 32? Et que dirais-je encore à la fin du texte que j'ai lu tantôt? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Voyez-vous, toutes sortes de choses qui sont accomplies par la foi, des choses vraiment différentes les unes des autres. Tout ce qu'on fait en fait en tant que chrétien est accompli par la foi. Parfois, on a l'impression que vivre par la foi, c'est faire des choses vraiment exceptionnelles, comme louer un stade de football pour évangéliser ou partir en mission à l'autre bout du monde. Et peut-être que c'est ça, ta marche par la foi, peut-être. Mais continuer d'aller travailler pour gagner de l'argent pour nourrir ta famille, c'est aussi un acte de foi. Prier quand ça ne te tente pas, continuer tes disciplines spirituelles quand tu le sens moins, c'est aussi un acte de foi. Persévérer à éduquer tes enfants aussi dans les voies de Dieu, même si c'est demandant. Résister au péché, tout ça demande de la foi. Aussi, on a peut-être l'impression que la foi, c'est pour faire quelque chose. Mais parfois, la foi nous demande de ne rien faire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans une saison de ta vie où Dieu disait « Non, ça va prendre quelque temps encore, patiente ». Patiente. Pour l'instant, la seule chose que je te demande de faire, c'est de patienter, de persévérer. Tu as une saison qui s'échelonne plus longtemps que tu aurais pensé. Donc, des fois, de ne rien faire aussi, c'est un acte de foi. C'est attendre dans la confiance durant une saison de vie, malgré ce que tu ne vois pas ou malgré même ce que tu vois qui te déstabilise complètement. Pendant que les musiciens s'approchent, on va regarder à notre troisième question. Peut-être que là, tu vois ça, c'est bien beau. La foi, OK, c'est très joli, c'est poétique, c'est magnifique, vivre par la foi aussi. Mais moi, je le sens pas, là. Je le sens pas, je me sens pas remplie de foi. Comment est-ce que je fais pour vivre par la foi? Comment est-ce que je fais pour vivre de cette façon-là, pour vivre ce mode de vie-là de la foi? Bien, on a la bonne nouvelle dans Hébreux 12. Le chapitre 12 commence de cette façon-là, après avoir décrit tous ces exemples de foi. On va le lire ensemble. Hébreux 12, versets 1 à 3, lisons-le ensemble. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, » donc la si grande nuée de témoins, c'est ce qui vient, c'est tous les chrétiens qui ont été nommés. Si on peut juste mettre le texte. Il n'est pas là? Bizarre. Alors, écoutez encore ma voix. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Et il y a ces cinq mots-clés que je veux qu'on regarde rapidement ensemble pour savoir comment vivre par la foi. S'entourer, rejeter, persévérer, regarder et penser. On a vu, donc le verset nous dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, l'auteur il présente ces exemples-là pour que notre foi soit vivifiée. Le fait de s'entourer, on a besoin, en fait, pour vivre par la foi, on a besoin de s'entourer autant de ces exemples qu'on voit, mais aussi de l'Église. L'Église devient un temple d'exemples vivants qui nous encouragent les uns les autres à vivre notre foi. Quand j'ai dit que le royaume de Dieu, il n'est pas visible, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas pleinement visible et établi, mais il n'est pas non plus complètement invisible. Nous sommes le royaume de Dieu en ce moment, aujourd'hui, ici rassemblés. Le royaume, c'est nous, aujourd'hui. Et voir des gens louer Dieu, servir Dieu, prier les uns pour les autres, tout ça, ça augmente, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça augmente ma foi et ça me permet de vivre davantage ma foi. Si tu veux vivre par la foi, tu vas avoir besoin de l'Église, tu vas avoir besoin de la communauté. Nous avons besoin les uns des autres. L'autre mot-clé, c'est rejeter les fardeaux, rejeter le péché, rejeter le découragement, rejeter l'envie de tout lâcher, l'envie aussi de succomber à la tentation. Si tu veux vivre par la foi, tu as besoin, comme on va voir après, oui, de persévérer, de regarder à Jésus, de penser à Jésus, mais tu as besoin aussi de rejeter ce qui doit être rejeté dans ta vie. D'abandonner tout ça au pied de Dieu pour pouvoir vivre par la foi. Troisième mot-clé, persévérer, courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Comme je dis souvent, je le dis souvent par rapport au ministère, mais c'est aussi vrai par rapport à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. La vie est longue, OK? Fait qu'il faut savoir comment courir. On peut pas courir en sprint. Et t'as pas besoin de persévérance pour courir un sprint. T'as besoin de d'autres choses, mais de la persévérance, non, parce que ça va tellement vite, t'as déjà terminé ta course. Mais pour un marathon, oh là là, t'as besoin de persévérance. Moi, ça m'impressionne tellement les gens qui courent des marathons, qui s'entraînent pour courir des marathons. Même, ils courent une journée. « Ah ouais, j'ai fait 1h30 de course. » Comment tu fais pour mettre autant de temps dans ta semaine pour courir? Mais ça m'impressionne vraiment. Et je pense que je serais vraiment incapable d'avoir la volonté, la force mentale de courir aussi longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les distances, c'est 42 km, okay, un marathon, et ça prend en moyenne 4h30 pour le faire. 4h30. Moi, ce n'est pas le 42 km qui me trouble, c'est le 4h30. Je n'ai pas envie de courir pendant 4h30 de ma vie. Je trouve ça très long. Donc, vraiment rempli de courage, d'admiration pour ceux qui courent des marathons. Mais ça doit être le fun au début, hein? T'as le thrill du début avec tous les coureurs à la ligne de départ. Donc, ça doit être quand même motivant, c'est fun, c'est dynamique. C'est le fun aussi arriver à la fin, hein, parce que c'est enfin fini, mais aussi parce que t'as un beau sentiment d'accomplissement. Mais moi, je me dis toujours, à 2h45 de course, c'est là que ça va pas. Ça doit vraiment pas aller bien à ce niveau-là. Et c'est là que tu as besoin de persévérance. C'est là que ça fait une différence de commencer à persévérer. La persévérance entre en jeu quand c'est long. Quand c'est long, et c'est la même chose dans nos épreuves. On sait aussi que la notion du temps pour Dieu et la nôtre, ils sont vraiment différentes. On l'a vu même un peu plus tôt dans le texte. Mais même par rapport à nos épreuves, à nos saisons de vie, dans notre société qui est encore plus hyper rapide, c'est des fois, on manque de patience. On manque de patience. C'est une société qui va toujours vite. Et Dieu ne va pas vraiment vite dans la vie. Il peut aller vite, mais il est souvent plutôt patient que rapide. On doit apprendre en tant que chrétien à faire preuve de persévérance et aussi à normaliser les saisons, même s'ils ne sont pas faciles, à normaliser les saisons qui semblent s'éterniser, à ne pas toujours questionner Dieu, « Ben voyons, Dieu, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » etc., etc. Non, juste avec humilité, en s'attachant à la communauté pour s'aider à passer à travers toutes ces périodes-là, qu'on puisse normaliser, même si, en sachant que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne tout au long de cette épreuve-là. Et l'élément clé que je veux mentionner par la suite, c'est vraiment regarder. Regarder. Courons notre marathon en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. On voit que Jésus est un modèle par la suite, avec la suite du verset, un modèle de persévérance et d'obéissance. Il est vraiment un modèle à suivre. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix par obéissance, par persévérance pour nous. Mais d'autre part, si on limite Jésus comme un simple modèle à suivre, ça serait de retomber dans le légalisme. C'est pour ça l'élément clé de notre marche par la foi, c'est Jésus, bien entendu, c'est Jésus. Jésus est non seulement le modèle à suivre, mais il est le moteur de notre foi. J'ai dit tantôt, si tu ne sens pas la foi en toi, tu la sens défaillir ou quoi que ce soit, la clé, c'est tout simplement Jésus. Jésus qui fait naître en nous la foi et la mène à la perfection. Ça veut dire que si tu sens ta foi défaillir, si justement tu as de la difficulté à persévérer, que tu es rendu à 2h45 dans ta course, tu n'es plus capable. tu ne te sens plus de force. Crie à Jésus. Crie à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui l'amène à la perfection pour nous amener jusqu'à la fin de notre course, chacun d'entre nous. Et en lien direct avec ça, c'est penser en effet à celui qui a supporté une opposition. Pensez à celui, pensez à Jésus. Pensons à Jésus pour ne pas nous laisser abattre par le découragement. Comment on fait? On pense à Jésus. Pense à Jésus, approche-toi de lui, prie, lis ta Bible. Quand tu cours le marathon, c'est pas le temps de penser à des chips puis à ton sofa, OK? Je te garantis, je suis pas vraiment bonne en course, là, mais je pense que ce serait pas un conseil que je donnerais aux gens. Au contraire, tu écoutes de la musique de tant, la Rocky, tu sais, la musique de Rocky, etc. Non, mais tu écoutes de la musique, tu penses à des choses qui t'aident à continuer, à persévérer. C'est la même chose, nourris tes pensées de ce qui va t'aider à persévérer. Pour vivre par la foi, tu as besoin de penser à Jésus, tu as besoin de lire la parole, de prier Dieu quotidiennement. Pense à Jésus qui a traversé aussi toutes les épreuves possibles. Il le fait pour nous en plus, par amour pour nous. Il va faire naître en nous la foi que nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Ne te laisse pas décourager, mais que vraiment Jésus puisse vivifier ta foi. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui veulent vivre par la foi? Ouais? Juste lève ta main, dis oui. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. J'aimerais juste terminer en priant pour vous. Seigneur, je veux d'abord et avant tout te prier pour ceux et celles qui auraient peut-être oublié ou qui n'auraient jamais cru qui tu es vraiment. Je te prie pour que notre connaissance de toi soit encore plus grande, qu'on puisse s'émerveiller encore plus de qui tu es, Seigneur, que tu es amour, tu es amour, tu es l'amour, Seigneur. Tu es notre lumière, tu es bon, tu es fidèle, tu es digne de confiance, tu nous réconfortes. Tu nous aimes. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses te révéler à tous ceux qui ont oublié qui tu étais, Seigneur, ce matin. Viens te révéler par ton esprit. Viens être palpable pour nous, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir foi que tu es incroyable, que tu es bon, Seigneur, que tu es amour. Viens faire cette œuvre dans les cœurs alors que nous allons chanter, nous allons élever ton nom, Seigneur. Viens transformer nos cœurs. Fait que nos regards soient fixés vers toi, Seigneur, pour qu'on puisse se rappeler qui tu es, à quel point tu es parfait, à quel point tu es un roi extraordinaire, à quel point personne comme toi, Seigneur. Tu es incomparable. Incomparable, Seigneur. Viens fortifier le cœur de chaque personne qui t'ont oublié ce matin. Et je veux te prier, Seigneur, aussi pour chaque personne qui se sent défaillir, qui perd l'énergie à marcher par la foi, qui se sent sur le bord de céder à la tentation, qui se sent sur le bord d'abandonner, qui se sent un peu fatigué, lassé aussi. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont besoin d'être vivifiées dans leur foi, Seigneur. Viens vivifier notre foi ce matin. Nous te disons, Jésus, augmente notre foi. Viens au secours de notre foi, Seigneur Jésus. C'est ce que tu nous demandes de faire par ta parole, Seigneur, qu'on apprenne à fixer nos regards sur toi, Jésus, qu'on puisse approfondir notre relation avec toi, Jésus, à tous les jours, qu'on puisse regarder, fixer notre regard. Viens vivifier notre foi ce matin. C'est ma prière et on a prié en ton nom, Jésus. Amen.